Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Dynamique Radio dans l'instant Régine. Alors aujourd'hui, moi je reçois une très grande dame, ça me fait plaisir, sincèrement plaisir de la recevoir, c'est Catherine Belkodja. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Catherine Belkodja, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer pour une exposition. Je vais vous laisser en parler parce que c'est quelque chose d'important qui vous tient à cœur. C'était une exposition de peinture, bien évidemment. Dites-moi-en un peu plus.
Alors, c'est une exposition qui s'appelait « Femmes plurielles » et qui a eu lieu dans un lieu associatif qui s'appelle le CLAGE et qui est tenu par la mairie de Paris dans le 12e arrondissement. Et c'est vrai que j'ai à cœur de toujours promouvoir les femmes peintres. En l'occurrence, là, j'ai voulu inviter Johar, qui est une peintre algérienne, qui a une peinture très moderne. Et puis, on était toutes les deux, tout simplement. Donc, il y avait également des peintures que je promène au fur et à mesure dans différents lieux, puisque je partage la diffusion de ces œuvres-là, d'une part dans des lieux associatifs, c'est-à-dire que j'ai une galerie itinérante qui s'appelle Belleville Galaxie, dans laquelle j'invite de nombreux artistes que j'ai envie de faire connaître. Et puis j'ai moi-même ma propre carrière à ce moment-là dans des galeries, des belles galeries. Je suis très heureuse
d'exposer là.
Notamment, j'ai noué des liens de fidélité, par exemple, avec la galerie Arnaud Lefebvre. C'était aussi avec Ivana de Gavardi. Et c'est un lieu que j'adore, qui est situé juste à côté des Beaux-Arts. Et on a une espèce de partenariat, puisque depuis des années, je participais à des expositions collectives. Et qu'en fait, il m'a permis de développer un univers plus personnel, parce que c'est sûr que quand la galerie offre tous ses murs pour montrer ses œuvres, c'est plus intéressant, parce que on peut découvrir différents aspects de la peinture, parce que depuis le temps que j'en fais, j'ai commencé à 16 ans aux Beaux-Arts d'Alger.
Voilà, c'était ça ma question. Quel âge vous avez commencé?
Voilà, au début avec une peinture très classique, parce qu'aux Beaux-Arts on apprend à faire des choses très classiques. Et puis ensuite, aux Beaux-Arts de Paris, j'étais fascinée par la peinture du XVIIe siècle. Et je peignais donc avec la technique du glacis, des techniques anciennes du Moyen-Âge, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se dégage de la formation initiale, c'est-à-dire que j'ai peu à peu laissé tomber la peinture
à l'huile. Voilà.
Et pour aller vers l'acrylique qui me permet d'avoir des toiles beaucoup plus spontanées avec des gestes qui restent lisibles et donc voilà, il y a différents moments, différentes séquences dans ma peinture qui sont très différentes, c'est-à-dire qu'au départ c'était des lignes très structurées qui étaient dues aussi à ma formation d'architecte. Et puis par la suite j'ai commencé un peu à libérer la forme, avoir une peinture beaucoup plus spontanée, beaucoup plus colorée.
Qui vous ressemble peut-être plus qu'au départ.
Qui sont, oui, sans doute. Vous savez, on a deux cerveaux. Il y a un cerveau qui est celui d'intuition, celui de la spontanéité, de la créativité un peu libre. Et puis on a toujours un cerveau qui est beaucoup plus structuré. Et donc on
navigue
constamment entre les deux, voilà. Et je n'ai pas su trancher, si bien que j'ai à la fois une démarche très conceptuelle, c'est presque mathématique, je dirais. Par exemple, j'ai toute une série de sudoku. J'ai une vraie passion pour le sudoku, mais que je décline d'une façon plus artistique, en jeu. C'est-à-dire que ça donne des grands panneaux avec des cases qui sont remplies avec des signes, ou de la poésie même, ou même il y a des haïkus, des sudokus atmosphériques. C'est placé comme ça, on croit que c'est décoratif, mais en réalité, ce sont des problèmes à résoudre.
C'est ça, faut s'approcher pour bien voir.
Il faut s'approcher, et puis ceux qui aiment autant le sudoku que moi peuvent s'amuser à résoudre ces énigmes. Et puis sinon, on le laisse là, comme ça, et voilà, c'est très bien.
On va écouter une chanson de Glenn Miller, In the Mood.
Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Vous êtes à l'écoute de Dynamique Radio dans l'instant Régine. Catherine, justement, la jubilante, c'est un grand monochrome.
Effectivement, c'est 3 mètres sur...
2 mètres ?
2 mètres 50, je crois.
Très grande toile.
Oui, voilà, une très grande toile. Oui, monochrome, noir et blanc. Et qui me tient beaucoup à cœur, cette toile, parce que c'est vraiment l'image que j'aimerais
véhiculer,
le message que j'aimerais véhiculer pour les femmes, justement, de rester libres, indépendantes, joyeuses, pas dans la souffrance. Voyageuse,
rayonnante.
Voilà, rayonnante. Je souhaite à toutes les femmes de vivre la meilleure vie possible. Et je dois dire que j'ai des filles et que je les ai toujours élevées pour qu'elles soient indépendantes. C'est quelque chose de très important pour moi. Je considère que, quelles que soient les situations, une femme doit rester absolument indépendante.
Maître d'elle-même.
C'est la seule façon de pouvoir choisir ce qu'elles veulent vivre, d'échapper, disons, dans les relations conjugales, au moment de séduction, et puis après, si c'est plus aussi bien, eh bien, voilà,
qu'elle
s'envole et qu'elle voyage et qu'elle vive.
Absolument. Justement, vous avez aussi peint La Clé des songes. Alors là, c'est une peinture à l'huile qui est un personnage énigmatique aux allures de totem. Pourquoi ce côté allure totem ?
Alors, le totem, c'est différent. Le totem, c'est vraiment un totem qui a des yeux partout et qui évolue dans un univers coloré et structuré, très géométrique. Mais par contre, la clé des songes, c'est une femme qui rêve. Elle rêve dans un petit théâtre, parce qu'elle aime le théâtre, elle a toujours été fascinée par le théâtre. Et en même temps, comme elle est occupée à... Elle est architecte, ses rêves même sont des rêves d'architecture, c'est-à-dire qu'elle rêve de formes, de structures, de volumes qui s'emboîtent, de pyramides. Et c'est quelque chose qui est très étonnant, puisque j'ai remarqué que forcément, les songes jouent et structurent aussi notre vie. Et puis, inversement, notre vie structure aussi un peu les songes.
Catherine, est-ce que ce ne serait pas un peu ce tableau, un autoportrait ?
Alors, je ne sais pas, elle a les cheveux bleus.
Oui, au niveau des cheveux, on peut y remédier.
Mais oui, il y a ce même goût du théâtre, de la perspective, il y a un monde bleu. Et puis, il y a quelque chose qui ressemble à un palmier. J'ai une adoration pour les palmiers. Je ne peux pas imaginer une vie future sans un lieu où il y aurait beaucoup de palmiers. Oui, peut-être, une femme qui rêve, oui.
Parce que l'huile, l'acrylique, les peintures broyées, le collage, la gravure appartiennent à votre panoplie, toutes ces techniques qui font de vous le caractère, l'expression de l'artiste en fin de compte.
Oui, parce qu'en réalité, le support importe peu. On peut être intéressé à des moments différents de notre vie par différentes techniques selon ce qui nous turlupine ou ce qu'on essaie d'exprimer. Je viens de voir par exemple les merveilleux collages de Jacques Prévert qui se trouvent en ce moment en exposition rue des Beaux-Arts, juste à côté de l'école des Beaux-Arts. Et quand on pense à Jacques Prévert, c'est un artiste total. Il est poète, il est peintre, il est scénariste. Le support n'importe pas. Quand on a un regard poétique sur les choses, ça peut se décliner dans le cinéma, dans le théâtre, dans la peinture, dans les collages. Parce qu'en réalité, il n'avait pas de technique de peinture, donc il disait qu'il ne savait pas dessiner. Et c'est malheureusement à la suite d'un incident un jour, il est tombé par la fenêtre. Ça, c'est Jacques Prévert dans toute sa splendeur. Il est tombé par la fenêtre et il fallait qu'il s'occupe. Et il a commencé à faire des tas de collages parce que ça lui permettait aussi de refaire travailler ses mains, refaire une éducation comme ça.
Même.
Voilà. Et puis, il a produit ces collages merveilleux.
Mais vous aussi, Catherine, vous êtes une femme complète, justement. On en parlera après la peinture. En fin de compte, vous êtes inspirée aussi des flèches du Kaiku ?
Oui.
Pourquoi ?
Oui, tout à fait. Alors, parce que j'ai une passion aussi pour le haïku. J'ai une passion pour le sudoku et j'ai une passion pour le haïku. Au tout départ, avouons-le, c'était plus une façon de m'amuser parce que j'apprenais le japonais en autodidacte. Et je devais apprendre des mots. Et je trouvais plus amusant, plutôt que d'apprendre des listes de mots comme ça, ou des petites phrases toutes faites, je m'appelle machin, je vais acheter du pain à la boutique. Enfin, on ne vend pas beaucoup de pain au Japon, mais bon. Je trouvais ça plus amusant d'essayer de faire des petits poèmes. Et donc, j'écrivais les petits poèmes avec le peu de vocabulaire que j'avais, la lune, les oiseaux, voilà. Et un jour, pour s'amuser, je l'ai montré à une grande traductrice de japonais, en lui demandant ce qu'elle pensait de ces petits haïkus. Et elle m'a dit, mais ce sont des haïkus anciens du 16e siècle, voilà, très précieux. Alors, bon, c'est vrai que là, j'ai attrapé un fou rire, et puis ça m'a encouragée à écrire des haïkus, donc je peux dire que j'ai commencé le haïku en japonais. Et puis, comme ça m'intéressait, et que j'avais fondé une revue avec mon compagnon de l'époque, une revue sur l'Asie, pour pouvoir voyager beaucoup en Asie. Cette revue s'appelait Marco Polo Magazine. J'avais invité deux poètes qui étaient spécialistes du haïku à initier les lecteurs donc, au haïku. J'avais lancé un grand concours de haïku donc dans Marco Polo Magazine que j'ai perpétué plusieurs années. Et ça a donné un essor, voilà, parce que ce journal était distribué gratuitement dans dans tous les restaurants. Et j'avais fabriqué...
C'était à la portée de tout le monde.
Et voilà, l'idée c'était, j'adore que les gens puissent accéder à la culture gratuitement.
C'est
et donc avec mon association Belleville Galaxy, enfin c'est pas mon association, c'est une structure protéiforme avec énormément d'artistes qui interviennent sur des projets précis, c'est protéiforme, les gens viennent de tous les pays, c'est au Japon,
mais vous l'êtes approprié parce que c'est sentimental tout simplement.
Alors, je peux pas dire approprié. C'est tout simplement parce que je suis présidente et que voilà, donc je suis le moteur, voilà, le moteur. Mais cette association n'existerait pas sans les très nombreux artistes qui participent ponctuellement à chaque projet, que ce soit en France ou à l'étranger.
Il ne faut pas oublier de dire que vous êtes une femme qui a beaucoup voyagé. Vous parlez allemand, anglais, arabe, russe et japonais, ce qui vous donne des ouvertures mondiales.
Alors, c'est gentil de dire ça, mais je dirais que oui, le français, l'allemand, l'anglais, voilà. Après, je dirais plus modestement que j'ai des notions de russe et de japonais, voilà. Mais je suis passionnée par les langues et j'apprends très très vite. J'ai une bonne technique. Oui.
On dit toujours que quand on sait parler une langue, les autres arrivent plus facilement derrière. C'est beaucoup plus facile.
Alors, moi je dirais que c'est tout simplement la motivation. C'est voilà, si on ne s'ennuie pas en classe, à un cours de langue, mais que... En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai aucun mérite parce que j'ai toujours été fascinée par les langues qui ont une écriture différente de la nôtre. Mmh. Parce que ça ressemble à des codes secrets. Donc, l'alphabet cyrillique, l'alphabet arabe, le japonais, mais en réalité, j'ai commencé par le chinois.
Le chinois.
Il se trouve que j'étais surveillante dans un lycée, puisque à ce moment-là, je faisais des études de philo. Et à l'heure du midi, il y avait des cours de chinois dans le lycée où je travaillais. Et là, je me suis dit, mais
c'est
extraordinaire, quelle chance! Pas besoin d'aller courir à l'autre bout de Paris pour un cours de 2 heures. Et il suffisait de rester et de faire sauter son repas. Et on avait des cours de chinois qui étaient merveilleux, mais c'était quand même très difficile.
Sûrement.
Parce qu'avec les tons, c'est très très difficile. Et alors, par contre, après, quand j'ai voulu étudier le japonais, alors d'une part, j'avais déjà assimilé beaucoup d'écritures, donc ça ne me posait pas de problème... Voilà, puis en plus avec les hiragana et les katakana, on a quand même une base de 46 hiragana, 46 katakana qui permet d'avoir des syllabes. Tandis que dans l'écriture chinoise, il faut vraiment... Les enfants, ils apprennent des caractères tous les jours, depuis qu'ils sont petits. Et c'est vrai que ça développe chez tous les petits chinois une aptitude à apprendre les autres langues absolument fantastique. Quand des petits Chinois arrivent de l'étranger et viennent en France, à la fin de l'année, ils parlent parfaitement le français. Il y a une vraie adaptation. Voilà.
Eh bien, Catherine, pour toutes ces explications, je vous dirais séché, si je le dis bien. Séché, qui veut dire merci. Et on va écouter une musique.
Je vais être taquine, je vais dire en quelle langue?
Chinois, en chinois.
Ah, d'accord.
On va écouter une chanson de Barbara l'Aigle Noir.
Ah, j'adore Barbara.
Ouais, oui.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit en mer de moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant. M'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Quand soudain, surgissant de
Catherine, vous avez fait une sculpture, la tortue étoilée.
Ah oui, alors ça c'était dans le cadre d'un hommage qu'on rendait à Michael Chamberg, qui était un ami producteur, qui a également réalisé un film, et qui était également un ami du directeur de la galerie, donc. Et alors Michael, je l'ai connu parce que je tournais un clip avec Chris Marker, qui était pour le groupe New Order, voilà. Mm-hmm. Et Michael Chamberg produisait ce clip, et nous sommes devenus amis. Et évidemment, quand il nous a quittés, nous étions nombreux artistes réunis sur le thème de la tortue, The Turtle. Et donc au départ, j'avais écrit des nouvelles sur la tortue, j'avais fait des peintures, mais cette fois-là, j'ai voulu faire quelque chose de plus important et j'ai créé une énorme carcasse de tortue, avec la base d'un grillage et puis ensuite on a tout retravaillé, que j'ai peint effectivement avec des couleurs très, très ocre. Voilà.
Ça vous a pris combien de temps pour faire cette tortue?
Ah ben ça c'est long, et puis surtout c'est, je me suis blessée parce que c'était du fil de fer, il y avait une énorme pince, il fallait peindre, il fallait faire du collage, il fallait faire une structure assez voilà. Et ensuite on l'a sortie au moment de Maïfer, donc on avait inauguré, c'était notre galerie qui avait été choisie pour inaugurer l'événement, donc je racontais des histoires et pendant ce temps-là cette tortue était... Il y avait un enfant qui s'appelle donc Ulysse, qui était caché sous la tortue avec une petite lampe de poche et qui se promenait partout. Voilà, c'était un petit magicien, disons. Et c'était assez amusant parce que ce jour-là, c'était aussi... Je m'en souviens, c'était drôle. C'était le jour de la manifestation des morts vivants. Mm-hmm. Et il n'y avait pas de taxi, puisque toutes les rues étaient prises avec des gens qui avaient l'air de sortir d'outre-tombe, avec des cheveux bleus, des têtes de mort, etc. Et comme il n'y avait pas de taxi, on a dû donc mettre cette tortue sur notre dos et traverser
La foule
traverser la foule de morts vivants avec des gloops, des toiles d'araignées, des voilà.
Vous étiez dans
avec
le thème
cette
en fin de compte.
Comme ça, c'était drôle. Oui. La traversée de Paris en voyant tous ces morts vivants, c'était très très drôle. Oui, oui.
Catherine, étant éditrice, vous présentez un livre accordéon qui avait donné le thème sur l'une de vos dernières expositions à la galerie de 389.
Ah, 389B, effectivement. Alors, il y a à chaque fois des petites histoires. Cette galerie 389B, que je connaissais à peine, j'étais très heureuse parce que dans le 20e, d'un seul coup, il y avait une nouvelle galerie qui allait ouvrir, etc. Et j'avais sympathisé avec ces gens. Puis un jour, ils m'ont dit... Oh là là, on devait faire une exposition et puis la personne s'est désistée parce que c'était le moment du Covid, elle craignait qu'il n'y ait pas assez de monde, etc. Et puis, j'ai lancé un petit défi, j'ai dit, oh, ben moi je la prends la date. Ils m'ont dit, ah bon, mais t'es prête et tout ça? J'ai dit, ben oui, j'avais quand même beaucoup d'œuvres stockées. Et eux, par contre, n'étaient pas prêts. Ce qui fait que 2-3 heures encore avant... avant le vernissage, ils étaient encore en train de couler le ciment sur une dalle. Donc j'étais quand même un peu angoissée, mais tout s'est merveilleusement bien passé. Voilà. Alors effectivement, il y a eu un thème qui était le thème de la lucidité, donc que j'avais lancé dans un groupe de poètes qui s'appelle Coucou du Haïku et qui existe sur Internet. Et c'était donc le thème de la lucidité. Et il y avait des haïkus tellement beaux que je me suis dit, on ne va pas juste les laisser sur Internet, on va en faire un petit livre. Et j'ai eu la chance de rencontrer Chloé Boineau, qui est donc une artisane du livre, magnifique d'ailleurs, qui vient de décrocher le prix... le prix de justement pour l'artisanat du livre cette année, parce que elle faisait partie de la dernière classe de fabrication de livres qui existait donc dans cette école de graphisme. Je ne sais plus si c'est des gobelins ou si c'est bon, moi j'adore l'artisanat d'une façon générale, j'ai une admiration mais absolue
ses formes, dans toutes ses formes
pour tous les artisans, tous ceux qui transmettent leur savoir et qui font de belles choses.
Absolument.
Je trouve ça merveilleux. Et donc, on a conçu ensemble un petit livre charmant qui s'appelle La Libretum, avec tout un tas de pliages japonais, justement, qui correspondaient bien à l'esprit
de l'écriture.
Voilà. Et puis, il y a Éric Dussert qui est vraiment quelqu'un de merveilleux, qui travaille à la Bibliothèque nationale, qui est une mine de savoir et qui a eu la gentillesse de nous faire une préface. Et voilà comment se font les jolies choses.
Mais Catherine, vous n'êtes pas que peintre. Vous êtes conceptrice d'émissions TV radio, réalisatrice documentaire. Vous êtes présidente de jury ou membre du jury. En passant par les émissions TV ou magazines, vous avez fait Théma sur Chris Marquette.
Oui, alors, attention, je vous rassure, hein, je ne fais pas tout en même temps.
Oui, j'imagine, ce ne serait pas possible.
Ce sont 10 différentes périodes de
votre vie.
Voilà. Donc, effectivement, maintenant, je peux commencer avec le temps à voir les choses qui se dégagent. J'ai toujours été très curieuse. Donc, j'ai toujours été passionnée de découvrir les belles choses, les œuvres d'art, les gens. Et donc, devenue journaliste pour ça, pour aller à la rencontre de personnes formidables qui m'intriguent, que j'ai envie de connaître davantage, que j'ai envie de faire connaître davantage. Voilà. Et puis...
Mais des belles choses, elle fait des belles choses. Elle fait quand même des racines et des ailes. C'est
aussi,
connu.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais le parcours... Je n'ai jamais fait d'études de journalisme. Hein,
vous étiez autodidacte à ce moment-là ?
Alors, on ne peut pas dire non plus, puisque j'ai fait des études de philo, donc j'ai appris à écrire. Puis comme j'étais en même temps architecte au tout début, j'ai écrit des articles spécialisés sur mes domaines de compétences. Mm-hmm. Donc comme j'étais passionnée par l'architecture bioclimatique, je m'étais spécialisée dans ce domaine. Les premiers articles que j'ai pu écrire, c'était sur l'architecture solaire, l'architecture de terre, voilà. Mm-hmm. Comme j'étais également passionnée de cinéma, donc j'écrivais aussi sur le cinéma et sur la littérature, voilà. Et puis petit à petit, de la presse écrite, je suis passée au journalisme de presse télévisée, voilà. Et puis après, j'ai intégré Gamma TV. J'ai commencé aussi à faire mes premiers sujets comme réalisatrice, qui étaient des sujets surtout de société. Donc au départ, c'était plutôt moi qui m'intégrais au projet d'émission des autres.
Oui, parce que vous n'étiez pas destinée à ça à la base.
Je ne sais pas à quoi j'étais destinée en réalité.
Ça s'est trouvé sur votre chemin. C'est...
Voilà la différence entre les professionnels de la profession et moi qui suis plutôt, quelqu'un qui avance sur des coups de cœur.
C'est quand même assez cursus. Moi, je vois Taxi qui a eu le 7 d'or.
Taxi, c'était encore... Ça, c'était une très belle aventure. Parce qu'en réalité, au moment où on m'a proposé de faire Taxi... J'étais donc, je m'occupais de mes deux cerveaux, là, de chaque côté. Donc, j'avais une activité d'actrice qui commençait à bien marcher. J'avais mes premiers films qui commençaient à avoir une audience à Cannes et tout ça. Et puis, j'étais journaliste. Mais c'était quand même deux choses très différentes. Et puis, j'avais réalisé des petits sujets et je voulais faire... mon premier long métrage, voilà. Donc je prospectais différentes productions. Je n'avais pas encore monté ma maison de production. Et dans ce cadre-là, j'avais rencontré plusieurs producteurs. Et dans ce cadre-là, Patrice Barra, qui était mon patron à Gamma TV, avait proposé mon sujet pour une émission plus importante, justement. Et j'ai rencontré Philippe Alfonsi. Et nous avons parlé longuement et j'étais très heureuse parce qu'il m'avait annoncé donc qu'il allait produire mon film, mon documentaire. Et puis en fait, il m'a rappelé le soir et il m'a dit mais c'est très bien, on va faire ce documentaire, mais je veux aussi que vous présentiez l'émission.
Ah ça, c'était encore le plus.
Alors pour moi, c'était
moins. Pas pour vous.
Ah ben non.
Pas devant, derrière
pas
plutôt.
Pas du tout, je ne voulais pas mélanger. J'ai dit, c'est pas possible, je n'ai pas envie d'être speakerine, c'est pas du tout mon créneau, j'ai envie d'être journaliste dans mon petit coin et qu'on ne me voit pas, et de m'amuser, et de continuer à m'amuser comme actrice. Et si je fais un truc au milieu, j'avais encore une image des speakerines avec les coiffures gonflantes.
Ne pas bouger, un peu la potiche à l'époque, c'est ce qu'on disait.
Un peu quand même, oui, j'ose à peine le dire, mais c'était un peu ça quand même. Et donc, j'ai dit, non, ça, c'est vraiment pas possible. Alors, il m'a demandé pourquoi. Alors, j'ai donné toutes les raisons. J'ai dit, d'abord, elles sont mal filmées, les décors sont affreux, c'est toujours... On travaille toujours au même endroit. Moi, j'aime garder ma liberté, justement, pour pouvoir aller tourner, pour pouvoir aller faire des reportages et tout ça. Donc, voilà. Et puis, aller tous les matins à 7h du matin à la maison de la radio, non, j'ai pas envie, voilà. Et puis, je n'ai pas voulu dire à ce moment-là que j'avais des enfants, mais je le pensais quand même. Mm-hmm. Et je me suis dit, non, mais je les verrai jamais, mes enfants, si je fais cette émission comme ça.
Oui, oui.
Et petit à petit, il a modifié tout son...
Son planning ?
Non, son, non. Disons...
sa conception de voir les choses ?
Voilà, il a accepté tous les points qui posaient problème pour moi. Et il m'a offert sur un plateau exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai pu tourner la nuit.
On va y revenir, Catherine. Ah, on va y revenir. Oui. On va écouter une chanson que vous aimez particulièrement de Monsieur Moustaki, Ma solitude.
Alors, j'adore cette chanson et puis j'adore Moustaki de toute façon.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Une douce habitude, elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Vous êtes toujours à Dynamic Radio dans l'instant Régine avec Catherine Belkodja. Catherine, vous écrivez aussi des pièces de théâtre ?
Oui, alors j'en ai pas encore énormément, mais j'ai commencé d'abord tout simplement par en adapter. C'est-à-dire qu'au départ, je jouais dans les pièces des autres. Et puis un jour, on est venu me voir pour me demander de faire un woman show sur un texte. C'était Ariski Metreff. Il avait écrit effectivement différents textes autour des femmes de Kabylie. Mmh. Et c'était de très jolis textes. Et il ne trouvait personne pour interpréter. Ça faisait 10 ans qu'il avait sa pièce sur les bras et que c'était assez frustrant pour quelqu'un quand on écrit de ne pas voir la pièce prendre vie. Donc j'ai accepté, mais comme... Bon, ben, je suis déjà, on l'a vu avec cette chanson, je suis déjà quand même quelqu'un qui travaille beaucoup dans la solitude, hein, puisque la peinture, l'écriture, tout ça, c'est ce
seul.
Sont des choses très...
Oui.
Voilà. Là, j'avais envie quand même d'embarquer une équipe. Et donc, j'ai préféré faire une adaptation et une mise en scène avec d'autres comédiennes. Et c'est ce que nous... Alors, on a commencé d'abord par une lecture, puis par une mise en place. Et puis, comme la pièce a bien marché, on a été invité après dans différents lieux et même dans un festival international de théâtre.
Vous l'avez exporté, donc.
Et on est parti en Algérie le présenter. C'était à Bougie, aussi au festival de Racontard. Et donc, cette pièce continuait à vivre et c'était assez merveilleux. Alors, au départ, je l'avais fait avec une quinzaine de personnes. Et puis, quand on a su qu'on partait en tournée, malheureusement, il a fallu un peu rassembler. On n'était plus que quatre ou que trois, je ne sais plus. Et enfin, il y a eu différentes versions. Voilà. Alors là, c'est un peu particulier parce que comme je connaissais à peu près tout le texte, je pouvais au pied levé éventuellement remplacer une actrice qui se désistait.
Oui.
Et ça, c'est très important. Voilà. Oui. C'est très important parce que il y a toujours des actrices qui à la fois s'emballent pour un rôle et puis d'un seul coup on leur propose quelque chose qui peut être peut-être mieux payé ailleurs. Alors elles sont capables de nous planter. Et heureusement, comme je connaissais tous les textes, je suis restée très zen et j'aurais dit bah, si vous voulez partir, pas de problème.
Je vous retiens
voilà,
pas.
Voilà. Ou alors on en avait qui voulaient, qui faisaient des petits caprices comme ça. Il y en avait une qui disait non, moi je veux pas jouer dans cette salle, je veux jouer dans celle-là. Ou alors je veux que ce soit le directeur du festival qui vienne m'apporter mon billet d'avion.
Alors, des exigences de départ.
Ah bah voilà, c'est-à-dire que voilà, tout le monde a envie un peu parfois d'être traité comme une star, mais un directeur de festival n'a pas toujours la possibilité de s'intéresser à chacune. Donc voilà, il fallait à chaque fois retomber sur ses pattes. Et j'ai fait cette expérience et j'ai eu envie de continuer. Donc on avait également, avec Étienne Sandrin, on avait fait l'adaptation du DPI. Mais alors là, c'était pas vraiment une pièce de théâtre, c'était un spectacle complet avec de la musique et des projections vidéo, voilà.
Interactif, on pourrait dire
Non, pas
non,
interactif,
pas du tout.
Non, c'était vraiment un spectacle monté, voilà, qu'on a joué au Collège des Bernardins, puis plus tard aussi à Avignon. Et puis, ben, petit à petit, on apprend comme ça et j'ai eu envie d'écrire mes propres textes. D'une part, parce que ça permet quand même de rester indépendant. Je tiens beaucoup à l'indépendance. C'est-à-dire que quand on s'occupe d'un texte et qu'on a une tournée prévue, si à un moment donné, l'auteur nous dit « Oh mais oui, mais peut-être que je peux maintenant, comme la pièce marche bien, je vais la faire jouer par Ariane Mouchkine », eh ben, on se retrouve un petit peu coincé. Donc, on se dit, je me suis dit, la prochaine, je l'écris et comme ça, je reste libre. Voilà.
Oui, là, elle est appropriée à vous, cette pièce.
Et
donc,
voilà.
Vous la gérez
donc
comme
là,
vous voulez.
Là, ça a été Heureux comme un roi avec Denis Lavant qui était fantastique, qu'on a présenté tout ça. Ensuite, l'année suivante, ça a été Escalade clandestine. C'était toujours des pièces sur l'immigration, hein, qui est un sujet qui me
touche particulièrement,
qui me tient beaucoup à cœur. Et puis la troisième qui est en route, qui s'appelle Macadam, et qui n'est pas achevée encore. Voilà. Donc je continue encore à...
Vous lui donnez combien de temps pour l'achever?
En fait, c'est quand je sais que c'est prêt.
D'accord.
Voilà. Donc on avait obtenu une résidence. Après, j'ai une comédienne qui a préféré partir aux États-Unis et faire la tournée des Grands-Ducs. Alors, effectivement, le projet a été décalé. Voilà.
Mm-hmm. On va écouter notre chanson, on va écouter Stromae, parce qu'après, on va parler des films dans lesquels vous avez joué.
Mm-hmm. dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Ton papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es?
Oui, Catherine, on parlait précédemment de tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez fait, mais vous avez joué au cinéma dans L'autre nuit de Jean-Pierre Limousin, et pas que, Nuit docile, Level 5, Noir et blanc, Silon Movie. Que pouvez-vous me dire de tous ces films?
Alors, je vais essayer de... Voilà. Alors, L'autre nuit de Jean-Pierre Limousin, c'était une dramatique, j'avais pour partenaire... disons que c'était un film qui c'était Roger Zabel, mon mari, voilà, et nous étions au début du film et nous avions un accident de voiture. J'avais que disons que là j'ai fait pour la première fois, j'ai interprété non seulement la personne qui a l'accident de voiture, mais j'ai interprété le cadavre. Et donc c'est très particulier parce que comme ils avaient demandé à des pompiers normaux de nous embarquer, alors d'abord d'abord le
bruit, le stress.
La scène est assez incroyable parce qu'on doit se précipiter sur une voiture pour avoir l'accident, mais on est retenu par un câble, voilà. Et donc après, il faut bien doser, il faut vraiment rentrer dans la voiture d'avant pour l'accident. Mais les autres tirent, enfin, c'est une expérience assez intéressante. Mais alors après, quand on est cadavre, les pompiers, ils nous emballent comme des cadavres. Ils oublient que nous, on est encore vivants et qu'on doit respirer. Et moi, j'ai cru que j'allais
mourir.
Crever, quoi, vraiment. J'étais là et je suffoquais et j'attendais la fin de la scène pour qu'ils pensent à nous laisser un petit peu d'air. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un film qui avait été sélectionné à Cannes. Ensuite, oui, Nuit docile, c'était un film de Guy Gilles, un très bon réalisateur. Et j'étais avec Claire Nebout, que j'ai revu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Noir et blanc, bah, c'est un film qui avait eu la palme d'or
quand
de
même.
Claire Devers, qui était une adaptation de... du boxeur manchot, voilà, et qu'elle avait fait quand elle était encore à l'IDEC.
D'accord.
Voilà. Alors, j'avais un petit peu participé au scénario en ce sens que j'avais proposé un jeu pour qui pouvait faire partie du film et qui était un jeu assez amusant qui donnait un petit peu d'humour dans un film un peu noir quand même. Voilà. Donc avec Jacques Martial, avec d'autres personnes. Et là, je jouais une femme de ménage. J'avais très peu de choses à faire. Et simplement, en général, voilà, ce qui se passe, c'est que quand on est dans le cinéma et qu'on a au départ que des petits rôles à se mettre sous la dent, ben, il faut les rendre les plus intenses possibles. Et donc, un rôle de femme de ménage, il faut se dire, voilà, je vais être 2 minutes à l'image... Je fais quoi ? Je dois exister. En 2 minutes, je dois installer un personnage. Et je me souviens que j'avais pris un livre de philo que j'avais glissé dans mon tablier et pour créer le rôle d'une femme de ménage qui est là, qui se dépêche de faire le ménage, parce qu'elle a, en fait, elle a envie de lire. Et alors, elle retape à toute vitesse le lit n'importe comment. Et voilà, donc, ça donne des petites nuances qui ne sont pas... stéréotypé, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de clichés sur les choses. Donc voilà, c'était amusant. Oui, alors le concert, bon, ben, ça c'est amusant aussi, parce que je faisais la femme du directeur du Bolchoï.
Ah, quand même, voilà. C'est pas rien. Hein.
Et une des scènes les plus importantes se passait sur les Champs-Élysées, où j'étais devant une glace avec mon mari et la glace devait exploser. Donc il y avait tout un tas d'effets spéciaux et avec des fils électriques, enfin il fallait que ça saute et tout ça, et c'était donc aux Champs-Élysées. Alors cette mini séquence qui doit durer une seconde, hein, c'est quelqu'un qui mange une glace et puis la glace explose, avec toute la, comment dire, la mise en scène, la recherche de fils électriques, de bombes explosives, etc. Il y a eu un attroupement extraordinaire aux Champs-Élysées et les gens pensaient que j'étais le rôle principal, quoi. Alors après, quand on voit le film, ça dure une seconde. Voilà, c'est ça aussi. Hein.
Voilà. C'est la magie du cinéma.
C'est amusant, oui. Voilà, alors sinon, il y avait... Ah oui, alors... Silent Movie, donc c'est en anglais, ce n'est pas vraiment un film, c'est une installation de Chris Marker. Il avait donc reçu une commande par la Cinémathèque pour rendre hommage au cinéma, c'était les 100 ans du cinéma, et il avait fait des recherches de toutes les comédiennes qui étaient dans les films noir et blanc, muet, voilà. Et en fait, il avait rajouté une seule comédienne vivante et c'était moi.
C'était vous.
Voilà. Donc, il avait empilé différents écrans et il avait fait une espèce de tour de tateline. Et puis, cette installation qui devait durer le temps de l'exposition a eu tellement de succès. C'était aux États-Unis. que le MoMA a racheté l'exposition et puis par la suite, plein de musées ont voulu avoir cette exposition. Donc il y a eu à Londres, il y a eu à l'Académie Royale de Bruxelles, il y a eu à Barcelone, il y a eu à Tokyo, il y a même eu... Enfin, j'ai un ami qui m'a téléphoné un jour en me disant « Mais j'hallucine, là, je suis là, je vois ton visage qui apparaît, comment ça se fait, qu'est-ce que tu fais là ?» Et bon, c'était très particulier parce qu'il fallait décomposer. Il y avait des parties qui étaient sur le visage, sur le geste, sur les voyages, et voilà. Et d'ailleurs, il a utilisé quelques images de cette installation, parce que Chris faisait toujours beaucoup de récupération, et il a utilisé quelques images que j'ai pu voir aussi dans le film Level 5, qui était donc un film de fiction, son seul film de fiction. Parce que la jetée, il y a que c'est un photomontage. Hein.
Oui,
il n'y a qu'un plan qui dure 2 secondes de battement de paupières, mais c'est un photomontage. Alors, il a fait aussi une autre fiction qui est l'attaque de l'ambassade. Donc, ça s'appelle L'ambassade. Mais normalement, on n'est pas censé dire que c'est un film de fiction parce que c'est un faux reportage. Voilà. Donc, Level 5, c'est une fiction et qui intègre des vraies images d'archives, par contre, sur la bataille d'Okinawa. Voilà, donc c'était...
Ça, c'est encore autre chose, je veux dire, on était plus plongé dedans, puisque cette...
C'était... Puis, comme il tenait à ce que j'ai une réaction spontanée par rapport aux images, je découvrais toute l'horreur de la guerre à l'écran, c'était épouvantable, oui.
Justement, puisqu'on parle cinéma, qu'est-ce que vous pensez du film « La Jeanne du Barry » ?
Le fameux film Jeanne du Barry. Bah écoutez, je n'ai pas pu résister, j'ai voulu le voir. Et c'est un film absolument magnifique et d'une modernité. C'est-à-dire que je m'attendais, comme c'était un film historique, je me suis dit, ça va être encore des costumes, des perruques, de la poudre, des dialogues stéréotypés. Et en fait, hop!
Modernisé,
tout a
complètement.
Été dépoussiéré et les images de cour sont presque des images, je veux dire, c'est un ballet très très bien orchestré, mais où on concentre tout sur l'intimité et sur le statut des femmes à cette époque. C'est un film extrêmement féministe, parce qu'à l'époque, quand on venait d'un milieu, on ne pouvait pas en sortir. Quand on était dans un milieu populaire, on devenait forcément servante. Ou on allait au couvent, pour celles qui avaient eu un minimum d'éducation. Alors que quand on était à la cour, on finissait marié à un noble quelconque. On avait toujours une dot, on avait les pensions du roi. Alors plus on était flatteur, plus on était courtisan, plus on avait
d'argent.
Et puis alors, les seuls qui échappaient un peu à ce destin tout tracé, c'était effectivement les favorites. Mais il fallait qu'elles jouent bien parce que, je veux dire, en général, on les prenait toutes jeunes et puis on les jetait.
C'est ça. Hein,
elles étaient elles finissaient dans la misère ou dans la maladie parce qu'il n'y avait pas de Et là, les dialogues sont d'une modernité, c'est décapant. Il y a une analyse sociologique des rapports entre les gens, c'est fracassant. Et surtout, il y a une grande maîtrise du cadre. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit un film où il n'y a aucune relation hystérique. et tout en ayant la même... le même parler cache entre les gens, sauf que là ça se passe entre un roi et une favorite. Et puis surtout c'est très très beau, il y a vraiment une maîtrise du cadre, donc moi franchement je suis impressionnée.
Catherine, quels sont vos projets, vos futurs projets?
Alors déjà c'est de continuer, hein, tout simplement, de continuer ce que je fais, c'est-à-dire que de terminer la pièce Macadam, de préparer la prochaine exposition et la prochaine mise en scène de Macadam. Et puis, je continue à écrire, donc soit des nouvelles, soit des haïkus, avec d'autres hygiene, on appelle ça, voilà. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, bon, j'interviens dans différentes revues, ça m'est presque indispensable parce que c'est mon regard éveillé sur d'autres spectacles, d'autres. Moi, je me nourris quand je vais voir d'excellentes pièces. Je suis ravie parce que j'apprends comme ça. Je n'ai, bon, à part au conservatoire, j'ai appris à être comédienne, mais je n'ai pas appris à écrire. Il n'y a pas de cours de où on apprend à écrire des pièces de théâtre. Ça n'existe pas.
Non, c'est inné. Je pense que c'est inné, c'est en soi.
Moi, je dirais que c'est quand même, il faut aller beaucoup au théâtre. Parce que là, je découvre de grands metteurs en scène ce que j'aime le plus, bon, outre les classiques évidemment, ce que j'aime le plus, ce sont les mises en scène actuelles avec des voix nouvelles, avec une conception différente de l'écriture de théâtre que je trouve très intéressante. Et quand on voit d'autres pièces, on se confronte à ces écritures et on arrive plus précisément à déterminer en se disant « Mais là, je peux me permettre d'oser, même si c'est différent d'une écriture classique. » On peut tolérer, ça donne un espace de liberté de voir de belles choses. Voilà.
Moi, je trouve que l'art du théâtre est extraordinaire parce qu'au théâtre, quand vous êtes sur scène, il n'y a pas droit à l'erreur. Là. C'est pas comme au cinéma où on vous dit couper, recouper. C'est vraiment du direct.
Ça, c'est vrai, c'est angoissant, mais en même temps, c'est ça qui donne de l'adrénaline.
C'est ça qui fait vibrer.
Voilà, ça, c'est sûr.
Alors moi, puisque malheureusement, le temps est imparti, on a beaucoup discuté, et on a tant encore de choses à dire, je vais vous poser une question bateau que je pose à tous les artistes que je reçois. Si vous pouviez remonter dans le temps jusqu'à un événement historique, lequel seriez-vous ?
Je crois que j'aime beaucoup le 19e, d'abord parce que dans l'écriture de romans on atteint des sommets. J'aime aussi la mode du 19e qui m'irait très très bien parce que ces grandes robes, j'adore ces grandes robes,
c'est magnifique.
Voilà, j'ai toujours aimé les grandes robes. Pour moi, c'est aussi le spectacle. C'est ces silhouettes,
c'est la grâce,
magnifiques.
La féminité,
c'est
dans toute
la
sa
féminité
splendeur.
Avec des femmes rondes, avec comme ça cette ampleur et ce mystère des grandes jupes. Bon, je trouve ça très très beau. Et puis je réfléchis, mais la préhistoire, là, voilà, être une femme avec un gourdin.
Pas très glamour.
C'est pas trop mon truc. Alors, je réfléchis à d'autres époques. La vie à la cour, non plus. Les périodes de guerre, surtout pas. D'ailleurs, je suis vraiment une fervente, je militante pour la paix, hein. Je le dis. Hein. Ça, c'est... Voilà, je trouve que... Je conçois qu'il puisse y avoir des guerres d'indépendance. Ça, je le conçois. Mais... cette façon à chaque fois d'intervenir dans les guerres des autres,
c'est pas notre souci.
Mais
c'est
voilà.
Chacun doit gérer son pays, son
voilà.
État.
No comment. No, oui. No comment. Mais
Catherine, comme je vous disais, malheureusement l'émission se termine. Moi, j'étais très très heureuse de vous recevoir.
Mais moi également.
Merci
Régine.
D'être passée à Dynamique Radio.
Julien.
Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt dans une prochaine émission. Et on va terminer sur Charles Aznavour, que vous aimez, la
oui.
Maman.
Oui, et j'ai toujours dit aux enfants que le jour de mon dernier jour, je souhaitais cette chanson.
Eh bien, nous allons écouter La Maman.
Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie,
y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là. Un enfant après une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria, il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Jamais, 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 tu nous quittes.